Les héros n'ont pas toujours des super pouvoirs. Celui que je reçois ce matin a même un lourd handicap qui ne l'empêche pas de déplacer des montagnes. À ses côtés, une femme solide sans qui rien n'aurait été possible. Elle est ce qu'on appelle une aidante et à voir tout ce qu'elle accomplit, on pourrait aussi la qualifier de magicienne. Aujourd'hui, ils viennent nous présenter leur livre Ma vie pour deux aux éditions Artaud, dans lequel ils évoquent abattons au plus le handicap mais aussi les secrets de leur amour. Philippe Croizon et Susanna Sabineau sont avec nous ce matin sur Europe 1. Ouais. Bonjour Philippe Croizon et Susanna Sabineau.
Bonjour à tous.
Bonjour
Anne Romanoff.
Bonjour à tous.
Alors d'abord une question primordiale que beaucoup de gens doivent vous poser. Vous êtes rencontrés sur un site de rencontre. Ok, mais lequel? C'est pas pour moi, c'est pour une amie.
Une amie qui rend service à son amie qui s'appelle Anne.
Non, parce que la dernière fois que je me suis inscrite sur un site, je suis tombée sur tous mes chroniqueurs, c'était un peu gênant.
C'est vrai, ça c'est pas impossible. Non, c'était Mythique, non vous?
C'est ça?
Exactement, bah oui, c'est pour un couple Mythique, c'était sur Mythique. Voilà. Bon, ça faisait quand même plusieurs mois que je me ramassais râteau sur râteau. Au début, je disais rien. Je disais, ouais, alors t'es un mec sympa, t'es un mec jovial, j'aime bien comment tu parles des enfants et tout. Et la nana disait, si on se rencontrait. Et là, je dis, oh putain, il y a un truc, je t'ai pas dit.
un petit détail.
Quatre petits détails. Et là, c'était fini, le mec sympa, jovial, c'était terminé.
Ah ouais.
Et donc, je lui ai envoyé un message complètement stupide. Je lui ai dit, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je les ai pas retrouvés. Elle m'intéressait pas trop, sa fiche, en vérité.
Non, pas vrai, je trouve sympa.
Pourquoi si, vous intéressait pas trop?
Ben parce que bon, elle avait trois filles et tout ça, et moi voilà, il y avait le handicap, j'avais deux garçons, je dis ça va être un truc monstrueux quoi. Ah. Et puis ben, ça faisait trois ans que j'étais tout seul, j'avais un peu la dalle, donc je me suis dit je vais y tenter quand même ma chance.
Et vous Susanna, vous sortiez d'une histoire d'amour compliquée,
oui.
C'est une amie qui vous a inscrite?
C'est une amie qui m'a inscrite parce qu'elle m'a dit il n'y a pas de raison, c'est pas parce que tu as trois filles que tu peux pas refaire ta vie.
C'était à Paris, vous étiez où
d'ailleurs? Non, j'étais dans le 37.
Et vous étiez où, Philippe?
Dans le 86, juste à côté, pas trop loin, ça
pas
va. On était à 20 bornes l'un de l'autre.
Ah ouais, 20 bornes.
C'était vraiment le destin, quoi.
Donc, à un moment, il vous envoie quand même sa photo.
Il avait le sourire, tout, la patate. Donc, comme je me suis dit, bah, il a l'air sympa celui-là. Ouais. Et puis, deuxième message, il m'envoie le message en me décrivant son handicap. Et bon, j'étais pas trop dans la recherche non plus d'une relation qui dure. Je me suis dit, pourquoi pas sortir avec des personnes juste pour aller au cinéma, des trucs comme ça, quoi.
D'accord. Expérience pas trop.
Non.
J'ai la belle Adèle, elle aussi.
C'est ça. Et on a commencé à discuter d'abord sur Internet, après sur téléphone. Et,
ouais.
Puis j'ai vu qu'il avait la même philosophie de vie que moi.
Et au bout de combien de temps vous vous êtes vus?
Au bout d'un mois.
Ah ouais.
Le premier jour que je l'ai vu, c'est comme si je l'avais toujours connu.
Ah ouais,
c'est incroyable.
On s'était tellement parlé au téléphone pendant des semaines
heures.
Et des semaines, ouais, des heures, on passait des nuits au téléphone.
Et
la première fois qu'elle m'a dit je t'aime, je crois bien qu'elle l'avait dit au téléphone. Pour
avant
vous dire.
Même de vous, hein.
Ah ouais.
Ouais.
C'est génial.
Et là, tu peux continuer si tu veux après quand t'es arrivé à la maison. Que...
Alors évidemment, j'arrive à la maison.
Ouais.
Et il me dit, tu veux que je te présente la maison?
Ouais.
Et devinez dans quelle pièce il m'a emmené direct.
La chambre.
C'est pas vrai.
Ah oui, il avait vraiment la dalle.
Pas de temps à perdre, quoi. Bravo,
j'ai dit,
Philippe.
Non, on va peut-être faire autre chose.
Elle dit, la cuisine, alors.
Je vais te montrer la cuisine.
Bah, d'accord.
Et tout de suite, il y a une grande complicité entre vous, quoi.
Oui, j'ai trouvé ça drôle.
Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble aujourd'hui?
Ça fait bientôt 13 ans.
C'est génial, hein. Vous donnez beaucoup de conférences, Philippe Croizon, et vous dites aux gens, parce que vous avez quand même, là, vous rigolez et tout ça, mais à un moment, ça a été très mal quand même.
Ah, ça a été, oui, bah oui, il y a eu des passages difficiles. Bah.
Parce que ça vous arrivait à 26 ans, cet accident.
Exactement,
avec
ouais.
Vous installiez une antenne de télé sur
Je l'ai démonté sur le toit de ma maison. J'avais un petit garçon, Jérémy, et j'avais un petit bébé qui allait arriver. La maison était trop petite, il a fallu déménager, j'ai voulu récupérer l'antenne de télévision. Et il y avait une ligne électrique derrière moi de 20 000 volts que j'ai heurtée. Et le courant est rentré par les mains, sorti par les tibias. Et là, le courant est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé. Enfin, c'est plus que brûlé, c'était carbonisé. Parce que, à la régie d'électricité, ils ont cru que c'était une branche qui était sur la ligne. Donc, ils ont voulu faire sauter la branche. Donc, ils ont rallumé trois fois le courant. Ouais. Donc, voilà.
Mais après, vous étiez marié, votre femme est quand même restée avec vous 7 ans, que je trouve.
Ouais, elle a tenu le coup de 7 ans parce que c'était ma phase gros con. À partir du moment où j'ai eu mon accident, il y a eu 2 ans d'hospitalisation. Et après, le retour à la maison. Où là, c'était compliqué. J'ai dit bonjour à une amie, la télévision. Pendant 7 ans, j'ai regardé la télé. Au bout de 7 ans, elle est partie et là, j'ai voulu faire le con.
Vous suicider?
Ouais, voilà, ouais. Donc, je lui ai demandé de mettre mes prothèses. Et déjà, je voulais nager, mais à l'époque, je n'avais toujours pas nagé encore. Et je voulais me jeter dans la rivière. Donc, pour me donner du courage, j'ai bu quelques gorgées d'alcool. Mais alors, marcher avec des prothèses quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Et alors, quand on est bourré, on ne va pas loin, quoi. Donc, je me suis cassé la gueule très, très vite avant d'arriver à la rivière. Et on m'a récupéré, on m'a emmené à l'hôpital pour que je me soigne. Et là, ça a duré un an, ouais. Et au bout d'un an, j'ai réuni ma famille. Je leur ai dit pardon, excusez-moi, j'étais un gros con, mais c'était nécessaire pour redémarrer. Le plus dur dans ce que je viens de vous raconter, enfin, c'est pas l'accident, c'est surtout quand j'ai reçu ma facture EDF, ça m'a fait mal.
Alors, évidemment, on dit toujours quand on traverse des épreuves aussi terribles que ça, ça aide à relativiser le reste ou... Par exemple, moi, hier, il y avait ma fille qui se plaignait de la vie. Et j'ai dit, mais tu sais, le mec que je reçois demain, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes et il est content. Elle me dit, il n'a pas du tout de jambes. Après, elle me dit, il n'a pas du tout de jambes. Je dis, si, jusqu'au genou. Ah, elle me dit, ah, bah, jusqu'au genou, ça va. Non, mais comment on peut dire des conneries pareilles?
Oui, mais quand je suis dans l'eau,
elle
par contre...
Elle a 28 ans.
Non, mais... N'importe quoi qui vous arrive, c'est dérisoire en fait.
Ouais, mais on relativise, c'est vrai qu'on relativise, mais je suis toujours quelqu'un d'hyperactif. Bah, voilà, quand j'ai un objectif, quelque chose, c'est celle qui me tempère, elle est juste à côté de moi, c'est Susanna. Autant moi, je suis super électrique, on sait pourquoi, mais Susanna, voilà, c'est vraiment le. Pff, tout va bien.
Est-ce que ça vous a aidé à relativiser les problèmes de la vie, Susanna, ou non ou...
Au quotidien, oui, il y a des petites choses qu'on peut vraiment passer au-delà. Et
pour vos enfants, ça leur a donné aussi une autre vision de la vie, j'imagine.
Ils voient le handicap différemment, ils vont vers les gens, ils n'ont pas peur du handicap, et ça, c'est très important. C'est ce qu'on voudrait qu'aujourd'hui tout le monde fasse, c'est-à-dire n'ayez pas peur des handicapés, hein. Ce sont des personnes comme des autres.
Et vous, Philippe Croizon, vos fils, parce qu'ils vous ont connu, ils ont connu tous vos états, surtout votre aîné a connu le papa valide, après le papa avachi devant un canapé, après le papa déprimé, après le papa heureux.
Oui, il a connu tous les états. Après, Jérémy, voilà, c'est le warrior un petit peu de la famille, parce que lui, il a vécu vraiment des choses assez
difficiles.
7 ans, après 14 ans, sa maman s'en va, il s'occupe du papa, du petit frère, il s'occupe de tout, hein. Et il continue ses études. Donc, pour lui, c'était assez compliqué. Et après, Grégory m'a toujours connu comme ça, lui. Donc, lui, papa, pour lui, c'est une fierté qu'il n'ait pas de bras et pas de jambes. Quand j'allais le chercher à la maternelle, par exemple, avec mon fauteuil électrique, il se mettait derrière et puis il saluait ses copains. « Ouais, moi, je marche pas, salut !» Il saluait comme ça, dans le geste de la main. Il était plutôt content, lui.
Donc, et vous, Susanna Sabineau, vos enfants, parce que vous aviez trois filles quand vous avez rencontré Philippe Croizon, oui. Et comment ça s'est passé, en fait vous êtes énormément investie, en plus.
Au début, pas trop, puisque, bon, on était dans notre début de relation. Philippe est arrivé une fois à la maison, la première fois, d'ailleurs, et les enfants ont voulu savoir ce qui lui était arrivé. Ils lui ont posé des tas de questions. Il était très philosophique avec elles. Elles ont posé toutes les questions qui leur passaient par la tête, et puis une fois qu'elles ont eu la réponse à leurs questions, elles sont parties jouer avec leurs poupées.
C'est la magie de l'enfant.
Tu as juste oublié un détail, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles avaient fini leurs questions, elles ne sont pas parties jouer avec leurs poupées. Elles ont amené leurs poupées. Ah ouais. Et moi, j'étais au milieu des poupées, des lapins, des machins. Et tout. Je faisais partie du truc, quoi. Ils jouaient avec. Oh, il est marrant, il bouge. C'est vrai, en plus, ça s'est vraiment passé comme ça.
Et alors, vous dites avant votre accident, Philippe Croizon, que vous étiez un gros con.
Ouais, enfin.
Vous étiez ouvrier métallo et vous aviez une Renault 25.
Non, alors attendez. Eh ouais, parce que j'avais une belle voiture. Je voulais pas qu'on me la raye avec les caddies. Donc je me garais sur les places handicapées. Bah, enfin, normal, quoi. Et puis un jour, je suis devenu une personne en situation de handicap et je voulais aller me garer au supermarché.
Il y avait
des gros cons à ma place. Ouais. Et je me suis dit, merde, c'était moi le gros con avant. Et là, j'ai pris une claque. Donc, juste pour un détail, vous savez combien il y a de fausses cartes de stationnement pour personnes handicapées à Paris ?
Non.
Il y a 25 000 fausses cartes.
Ouais, il y a un vrai trafic.
25 000 fausses cartes. Comment le mec ou la nana se dit, je vais acheter une fausse carte ?
Ouais.
Déjà, rien que le schéma dans la tête de dire, je vais acheter une fausse carte pour me garer sur une place handicapée. Déjà,
pour pas payer le stationnement.
Pour pas le payer le stationnement, il y a plus de place. Enfin, on arrive à trouver quand même. Donc,
Susanna Sabineau, vous dites que vous faites partie des 8 millions d'aidants en France. Ce sont des gens qui sont pas reconnus.
Oui.
Vous en êtes aperçue en écrivant le livre, en fait, que vous étiez aidante.
Et oui, je savais pas que j'étais aidante toutes ces années aux côtés de Philippe. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde d'aidants. Et qu'une fois arrivés à la retraite, n'ont rien. Parce qu'ils n'ont pas cotisé, ils n'ont pas travaillé pour pouvoir s'occuper de leurs proches. Il y aura quand même pas mal de travail à faire de ce côté-là.
Et comment ça se passe alors ?
En ce moment, les associations se mettent tous ensemble pour pouvoir demander un statut, le statut de l'aidant. Il y a bien
une rémunération,
pourquoi pas des statuts de l'aidant.
Mais ça concerne 8 millions de personnes.
11 millions d'aidants,
tout confronté. Tous les aidants confrontés.
Et vous êtes en plus aperçu, Philippe Croizon, en lisant le livre de Susanna Sabineau, qu'elle avait des souffrances dont elle ne vous avait jamais parlé.
Non, parce que son livre était un exutoire. Et ça faisait plusieurs fois qu'elle me disait, j'ai envie d'écrire un livre. Et je l'entendais d'une oreille, je la sortais par l'autre, parce que je savais très bien ce qu'elle allait écrire. Et donc, un jour, elle a mis le poing sur la table et dit, je veux vraiment écrire notre histoire, parce que j'ai vraiment dérouillé dans nos aventures. Même si c'était des belles aventures humaines, mais les entraînements, enfin, les gens ne peuvent pas imaginer ce que c'est que l'entraînement pour traverser la Manche à la nage.
Ouais.
J'étais pas sportif, j'étais gras comme un petit lardon, j'avais pas de bras, pas de jambes, donc ça voulait dire 35 heures de natation par semaine. On a fait 4000 km de natation en 2 ans. Et Susanna,
elle attendait dans le froid.
C'était mon ange gardien et elle attendait dans le froid. Elle était congelée. Des fois,
vous nagiez pas, Susanna?
Non, je marchais.
Ou alors, des fois, elle prenait mon fauteuil électrique et les gens ils disaient: oh, ma pauvre dame, vous êtes handicapée, vous avez eu un accident. Et elle a répondu: non, moi, tout va bien, c'est mon mari qui nage.
Et elle disait que, enfin, elle dit que dans ces moments-là, alors qu'elle attendait dans le froid, qu'elle vous a énormément aidé, parfois vous étiez dur avec elle.
Oui, pardon.
Oh là, vous êtes un homme, quoi.
Je savais que ça allait ressortir tout ça. D'ailleurs, quand j'ai envoyé le livre à l'éditeur, Artaud, et quand il a lu le manuscrit, il m'a dit: mais t'es sûr, tu veux vraiment publier ça? Et je dis: bah ouais, est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Et il m'a dit: dans ces cas-là, faut que tu réagisses à la fin de chaque chapitre.
C'est vrai.
Il y a une réaction de ma part.
Comme des interludes.
Des fois, des réactions un peu pono, des fois, parce que c'est vrai que, pour être honnête, le livre nous a même carrément sauvés.
Ah ouais.
Parce que je crois qu'on était au bout de l'aventure, de ce qu'on avait mené et tout ça, et on était dans l'incompréhension l'un de l'autre. Et le fait qu'elle l'ait écrit, le fait que ce soit un exutoire et que je l'ai lu, ça nous a ça nous a fait du bien, ouais.
Parce que le fait qu'elle vous le dise, ça passait complètement à côté, quoi. Il fallait prendre le temps.
Complètement. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de personnes en situation de handicap ou des aidants qui ont lu le livre et qui disent: merde, moi aussi je demandais pareil à ma femme ou je demandais pareil à mon mari, je m'en rendais pas compte.
Ouais.
Et le livre m'a fait du bien. D'ailleurs, si je peux faire passer un message, il y a 11 millions d'aidants, donc n'hésitez pas à acheter le livre, hein. Ma vie pour deux.
Un euro par aidant, on est bien, on est refait.
Et puis un détail important, Susanna est d'origine portugaise, donc la communauté portugaise, faites-vous plaisir.
Vous n'êtes pas toujours tendre avec Philippe dans le livre, Susanna Sabino, des fois vous...
Ah bah des fois il faut lui mettre des coups de pied au cul, hein, parce que sinon je suis dans mon canapé, va me chercher mon verre d'eau, va me dire tu peux te lever toi-même et puis y aller, quoi. Je veux dire, c'est un peu aussi ce qui l'a sauvé aussi, que je sois un peu comme ça, parce que bah je suis pas
pour le bouger, quoi.
Pour bouger, voilà.
Parce qu'au début, quand vous l'avez rencontré, vous vous dites vous étiez un gros bébé, quoi. Assisté, en fait, après votre accident, vous êtes tombé dans une espèce de léthargie.
Ah mais à 100%, j'étais vraiment un assisté à 100%, et donc je me suis enfermé sur moi-même. Et quand j'ai rencontré Susanna, je lui ai montré une certaine facette pour bien la pâter, quoi. Et donc, une fois qu'elle est arrivée à la maison, qu'elle s'est installée avec les enfants, bah, je suis redevenu un gros bébé. L'anecdote la plus importante, je crois que... Parce que j'avais appris à faire pipi tout seul et ainsi de suite, voilà, en centre de réduc. La nuit, j'ai essayé de dire... Oh, j'avais pas envie de me lever. Je l'ai réveillée, j'ai envie de faire pipi, tu veux pas chercher le pistolet? Et puis elle l'a fait une fois, deux fois, et la trois fois, une fois. Elle dit: non mais vas-y, lève-toi, dégage.
Ah ouais.
Voilà, c'est comme ça qu'elle...
Vous avez été assez saine, Susanna, en fait. Vous avez dû tout apprendre sur le tas, parce que vous vous attendiez pas dans votre vie à être confrontée à ça.
Exactement. Je suis passée par plein de phases, en fait, sans avoir eu d'apprentissage.
Et maintenant, vous allez pouvoir donner des cours aux aidants.
Non, je pense pas que je suis à ce niveau-là, mais disons que chaque personne proche qui a une pathologie, c'est différent, quoi. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à chaque fois à la personne.
Si je peux revenir au livre, il y a un passage dans le livre qui m'a beaucoup marqué, où j'ai beaucoup pleuré. À un moment donné, après les 5 continents, elle m'a dit: je ne sais plus qui je suis. Je t'ai tout donné, je t'ai tout offert, et moi je ne sais plus qui je suis dans tout ça. Et vu qu'elle est d'origine portugaise, elle venait de se faire opérer d'un fibrome, 1,5 kg, un beau pamplemousse. Hein.
Ah ouais. Ah ouais.
Et un mois après, elle a pris un sac à dos, elle n'était pas sportive non plus, elle a pris des chaussures de marche, et elle est partie de Fatima, et elle a marché jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, elle est revenue, elle m'a dit: maintenant c'est bon, je me suis retrouvé, je sais qui je suis, mais ne me demande plus rien. Donc voilà, aujourd'hui je lui demande plus grand chose.
C'est pas vrai, on vous avait
il avait le Dakar après. Donc.
vous lui demandez quand même beaucoup de choses.
Ouais, toujours, mais par surprise à chaque fois. C'est-à-dire que la Manche, c'était sur un plateau télé, elle a appris que je voulais traverser la Manche à un nage. Et quand j'ai voulu relier 5 continents, elle l'a appris aussi sur un plateau télé. Après la Manche, elle m'a dit: tu me demandes plus rien, les enfants ont souffert et tout. Je lui ai dit: non, promis, je te ferai plus rien, promis, promis. Et un jour, on fait une émission de télé avec Sophie Davant, et Sophie Davant va la voir dans le public. Elle lui dit: vous l'aimez très fort, Philippe? Ah bah oui, je l'aimerais tout le temps. Mais alors, vous le suivrez partout, tout le temps? Bah oui. Mais alors, quand il va relier les 5 continents à la nage, vous serez avec lui? Et là, il y a eu un silence de mort.
T'es pas au courant?
T'es pas au courant.
Et là, c'est quoi votre prochain projet, Philippe Croison? Vous voulez monter sur scène, faire un one-man show, c'est ça?
Oui, je suis en écriture en ce moment avec Jérémy Ferrari.
Ouais.
Avec Jérémy, on a fait pas mal de bêtises pour France 2, TF1 et tout ça. Donc, dédramatiser encore une fois le handicap et tout. Vu que je fais beaucoup de conférences, je fais à peu près entre 100 et 150 conférences à l'année, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de rires. Et à chaque fois que je termine la conférence, tout le monde me dit: mais il faut que tu fasses un one man. Et j'ai fait une conférence à Bercy il y a un an, il y avait 10 000 personnes. Et les producteurs étaient là, ils m'ont dit: bon, il faut que tu montes sur scène, ça suffit, tes conneries là. Et voilà, on est parti dans l'aventure.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Susanna Sabino?
Oh ben ça c'est très bien, parce qu'il faut qu'il soit tout le temps occupé.
C'est ce que je dis, j'ai la femme la plus heureuse du monde. Ouais. Elle est contente quand je pars et elle est contente quand je rentre. Vu que je fais que ça, elle est tout le temps contente.
Ben H a des choses à vous dire.
Oui, il faut savoir, Philippe Croison et Susanna Sabino, que dans l'équipe, moi je suis un petit peu le chroniqueur fragile, hein, qui s'émoustille dès qu'il y a un petit peu d'amour dans l'air. Grand romantique devant l'éternel, l'amour j'y peux rien, ça m'émeut. Je peux chialer devant un épisode de Joséphine Ange Gardien, j'ai pas peur de le dire. Alors quand j'ai un couple comme vous devant moi qui vient nous parler de son histoire, bah ça me touche forcément. Hein. Votre amour, c'est la preuve à mes yeux qu'au-delà des préjugés, des clichés, on peut aimer et surtout être être aimé, alors que la vie, malheureusement, Philippe, vous a pris vos cheveux. Et mon grand-père a perdu ses cheveux, mon père a perdu ses cheveux. J'ai conscience que cette sublime tignasse a une date de prescription. Alors, autant
péremption.
Vous le dire. De péremption. Prescription, ça marche pas, là ?
Non.
Bon, bah écoutez, on dira comme si j'étais à l'école. Alors, autant vous le dire, Philippe Croizon, qu'en vous voyant avec Susanna ce midi, je suis forcément rassuré sur mon futur potentiel de séduction une fois que je serai passé de l'autre côté sombre de la force. Oui, on peut retrouver l'amour après le drame. D'ailleurs, dès le début, hein, vous avez préféré être franc avec Susanna. Dès vos premiers échanges sur le site de rencontre mythique, vous n'avez pas voulu tricher, Philippe Croizon, lorsqu'elle vous a demandé une photo. Vous n'avez pas cherché à en mettre une où vous aviez encore vos cheveux, ou un bonnet, ou même une perruque. Non, vous avez choisi de vous montrer tel que vous êtes, chauve. Et Susanna, alors que vous auriez pu prendre peur, ou ne serait-ce que regretter l'absence évidente de potentielles mains dans les cheveux, vous avez tout de même fini par craquer. L'amour a ses raisons que les coiffeurs ignorent. Vous le dites. D'ailleurs, Susanna Sabino, je vous cite, je crois en cette capacité de chacun d'aimer au-delà des stéréotypes et des conventions, c'est beau. Parce que ça n'a l'air de rien comme ça pour vous, mesdames, mais la perte des cheveux, c'est pas simple dans la vie d'un homme. Hein, Philippe Croizon, vous avez déclaré d'ailleurs, suite au choc de la perte, j'ai passé 10 ans à ne rien faire. Ça fait un peu cher payé pour une simple calvitie, mais ça montre bien la difficulté de réapprendre à vivre sans ce qui est finalement essentiel. Et de ce bouleversement, vous en avez fait une force, une soif de vivre malgré tout, avec cette grande phrase, rien n'est impossible. C'est à quoi les mauvaises langues vous répondent, bah si, impossible de te coiffer. Mais qu'à cela ne tienne, hein, au diable, les peignes et les shampoings, le nouveau Philippe Croizon se lance alors dans de grands défis sportifs humains. Hein, d'abord la traversée de la Manche à la nage, puis vous avez relié les 5 continents, on l'a dit, à la nage toujours, pour enfin faire le célèbre Dakar, où vous vous classez, Philippe Croizon, à une honorable 48e position au classement général, mais tout juste au pied du podium dans la catégorie chauve. Des aventures fantastiques où le dépassement de soi, l'ouverture et la tolérance, l'humour sont les maîtres mots, et où Susanna est la seule vraie copilote. Un exemple pour nous tous. Et qu'en plus de ça, j'apprends que vous aviez perdu vos bras et vos jambes, je me suis dit, ah merde, j'aurais dû en faire une chronique. Merci de m'avoir écouté.
Alors Susanna Sabino, vous êtes portugaise et vous dites que vous vous sentez apatride, vous sentez une portugaise en France, une française au Portugal. Et...
Bah ouais, j'ai deux pays on va dire. Notre pays c'est la terre finalement. Ouais. Donc, voilà.
Vous y allez souvent au Portugal ?
Une fois par an.
C'est parce quel que coin ? Parce que moi j'y suis jamais allée, j'adore. Non mais c'est vrai, tout le monde me dit Lisbonne, c'est magnifique, des choses. Et je suis jamais allée nulle part au Portugal.
Tout est beau au Portugal.
Tu le vends super mal le Portugal.
Vous aimez le Portugal, Philippe Croizon ?
Mais j'adore, c'est un accueil extraordinaire les Portugais. N'hésitez pas les Portugais, ma vie pour deux.
Alors vous dites, Philippe Croizon, quand on traverse une terrible épreuve comme la vôtre, on passe par 5 étapes, choc, déni, colère, dépression, acceptation. Au bout de combien de temps est venue l'acceptation ?
Oh là, j'ai accepté beaucoup trop vite. C'est-à-dire que pratiquement 2 mois
en
après mon accident,
c'est ça,
en apparence, j'ai accepté trop vite. C'est un oncle de mon ex-femme qui m'a dit, écoute, moi j'ai perdu mon papa très jeune, Jérémy est là et pense aussi à Grégory parce que mon petit bébé, il est né 2 mois après l'accident. Quand je me réveille une nouvelle fois, je reviens au monde une nouvelle fois, mon petit bébé arrive en même temps que moi. Et là, il me dit, tu crois pas que ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, t'es le petit gars. Et pour moi, c'était un coup de jeu, mais virtuel cette fois-ci, qui m'a ramené à la vie, ouais. Et après, bah, je me bats comme un diable en centre de rééducation. Après, je passe dans la phase de dépression quand je rentre chez moi. Et après, il a fallu un an de psy 7 ans après la phase de colère. Et puis donc après, bah aujourd'hui, ouais, je suis vraiment dans l'acceptation. Et très souvent, on me dit, si on tourne tes bras et tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant ? Je dis non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ouais.
Vous arrivez à rebooster les gens que vous croisez ? Parce que vous devez croiser des handicapés qui sont au fond du trou, j'imagine.
Alors, je suis ouvert de 8h à... Très souvent, on m'appelle, il y a des parents ou des mamans, des gens qui me contactent en disant, voilà, mon fils ou mon grand-père ou mon épouse, mon mari a eu un accident, est-ce que vous pouvez faire... Non, je peux rien faire, je suis pas psy, ou alors je deviens gourou, mais alors, là, du coup, je deviens vraiment un gourou et je vais gagner beaucoup d'argent. Je suis pas psy, donc j'ai pas la phrase exacte. On a écrit, c'est le 5e livre, j'ai écrit mon premier livre, j'ai décidé de vivre, après la traversée de la Manche, plus fort la vie, et le dernier, pas de bras, pas de chocolat, c'est que des conneries, mais... Et celui-là, celui de Susanna, voilà, on a des nos livres sont nos j'ai de l'émotion, mais servez-vous-en, quoi. Mais nous, on n'est pas des psys, quoi.
Susanna, vous arrivez, vous, à trouver les mots quand quelqu'un est en détresse ?
Non, c'est très difficile de trouver les mots qu'il faut.
L'essentiel, c'est qu'il faut être présent.
Il faut être juste aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire semblant.
Exactement. Pas tricher.
Oh, c'est pas grave.
Ou alors la compassion. Oh là là, on est avec toi, mais c'est triste. Oh non, mais vas-y, va-t'en.
C'est quoi les trucs les pires qu'on vous ait dit ? Vous dites aussi ras-le-bol des regards de compassion, de commisération. Ça, à un moment, vous ne supportiez plus ça.
Ben oui, parce qu'il y a tous les types de regards. Il y a le regard curieux. T'as le gars qui va arriver qui dit « Oh putain, il n'a pas de jambes !» Il lève les yeux, oh, il n'a pas de bras non plus. Il vient de voir, il dit, eh, va voir dans le dos ce que t'as. Voilà, c'est, ça devient horrible. Et après, il y a les regards compatissants, les regards tristes. Ça aussi, on n'en a pas envie, mais on apprend que c'est naturel. Même moi, le premier, quand quelqu'un est différent, d'ailleurs, regardez comment je vous regarde, Anne. Ben, quand quelqu'un est différent, moi aussi, je suis le premier à regarder.
Ah, il paraît, Philippe Croizon, que vous faites draguer aussi. Il paraît que dans les séances, il y a des femmes qui s'assiedent sur vous. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi elles s'assiedent sur vous? C'est quoi ça?
Bah, parce qu'elles voulaient faire des photos.
Oui, mais d'accord, enfin.
Et puis peut-être qu'elles voulaient sentir quelque chose. On m'a coupé 4 sur 5 quand même. On m'a laissé le cinquième, l'élément principal de la vie. Ah, là aussi, t'as une prothèse? Non, pas du tout.
Léa Landau a des choses à vous demander.
Oui, Philippe Croizon et Susanna Sabino. Alors moi qui ai toujours pensé que les sites de rencontres étaient faits pour les histoires de fesses, là, c'est quand même une des plus belles histoires d'amour qui soit. Donc je vais peut-être m'inscrire, on va voir. En tout cas, je vous ai préparé une interview pour le meilleur et pour le pire. Alors Susanna Sabino, le meilleur dans son profil mythique, c'était quoi?
Le meilleur, c'était son sourire.
Et le pire dans le profil mythique de Susanna Sabino, Philippe, c'était quoi?
Fais gaffe! Elle lui dit fais gaffe!
Bah ouais, c'est ça, non mais vous. Hey, en vérité, c'est pas moi le dominant.
Le pire défaut de Philippe Croizon, c'est quoi, ça, Susanna?
Son impatience.
Ah ouais?
D'ailleurs, on y sait tout, tout et tout de suite.
Et le meilleur geste que Susanna a eu à votre égard, Philippe Croizon, c'était lequel? Vous en avez le souvenir?
Le meilleur geste qu'elle a eu, ouais, j'en ai un souvenir extraordinaire, je crois que je le garderai toujours gravé dans ma mémoire. C'est la première fois qu'on a été.
Elle dit chute encore, non.
On est encore non, dans cette histoire de cuisine.
De visite de chambre.
On repasse dans la chambre. Ouais. Okay. Et c'est vrai que la première fois qu'on était l'un contre l'autre, qu'on s'est dénudé, et la première chose qu'elle a fait, elle a pris mon bras gauche et elle l'a caressé. Et je me suis effondré, j'ai pleuré.
Ah ouais.
J'ai pleuré. Ouais, ouais, elle a libéré l'animal qui était en moi. Mais ouais, c'était la chose la plus extraordinaire qu'elle a fait.
Comme une acceptation profonde de ce que vous étiez.
Exactement, ouais. Complètement, ouais.
Ce qui vous redonne aussi, du coup, un regard de confiance.
Ça m'a redonné une énergie, une confiance. Ouais. Hein?
Oui.
Tu te souviens de ma confiance?
Moi, c'était pas du virtuel.
Le meilleur souvenir de votre rencontre sur Mythique, c'était quoi? Le meilleur souvenir, le plus drôle?
Quand je l'ai vu pour la première fois, je l'ai embrassé directement sur la bouche.
Alors que lui, il voulait vous serrer la main, mais bon. On brûle les étapes.
Philippe Croizon, quel est le meilleur moment de la journée avec Susanna Sabino?
Le meilleur moment de la journée? C'est quand même à part mon assiette.
Quel est le pire moment de la journée avec Philippe Croizon?
C'est quand je lui apporte son assiette.
Quel est le pire obstacle quand son conjoint, qui est donc Philippe Croizon, décide de traverser la Manche?
Toute la logistique derrière, on ne sait pas trop comment on va pouvoir faire, donc il faut réfléchir pendant pas mal de temps.
Vous dites que c'est son oui qui vous a, et son amour qui vous a permis de faire ça.
Ah mais complètement.
Dites-le.
Ah mais je le dis, parce qu'il n'y a pas que les boissons énergétiques qui donnent des ailes. Hein. Il y a surtout l'amour. Je dis ça parce qu'ils n'ont pas voulu de sponsor sur le Dakar. Mais... et quand c'était difficile, tous les deux, à chaque fois je lui disais, chérie, il faut tenir le coup, parce que si on réussit cet objectif de dingue, où 99% des gens disent c'est pas possible, on va changer notre vie. On va vraiment changer notre life, parce qu'on ne peut pas vivre sous le seuil de pauvreté en étant une personne handicapée toute notre vie. Quoi. C'est pas possible. Mm-hmm. Moi, j'avais qu'une allocation de 800 euros par mois. Je dis, mais c'est pas possible. On va mourir avec ça. Et donc, il y avait ce vieux rêve de vouloir traverser la Manche à la nage que j'avais vu sur mon lit d'hôpital quand je me suis réveillé. 2 mois après mon accident, j'avais vu une jeune fille traverser la Manche. Et j'ai dit, pourquoi pas moi un jour? Et je rencontre Susanna et elle me donne des ailes et on le réalise avec une équipe extraordinaire. Ensemble.
Ça, c'est beau.
Bravo, Susanna.
Applaudissements. Ouais.
Ensemble, main dans la main.
Non.
Et Susanna Sabino, pour finir, le meilleur à votre avis chez Anne Roumanoff?
Ah bah, j'aime bien son humour et aussi qu'elle s'engage dans les causes, dans beaucoup de causes.
Et Philippe Croizon, le pire à votre avis chez Anne Roumanoff?
Son chemisier.
Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de se prononcer. Hein.
Merci à tous les deux. Plein de belles choses.
Elles chantent en duo, se sont fait un nom avec un prénom. Elles vont bientôt entamer une série exceptionnelle de concerts acoustiques à travers la France où elles vont revisiter les chansons de leurs 3 albums dans des versions inédites. Un triomphe pour Brigitte.
Ouais. Merci. Alors bonjour Aurélie Saada, Sylvie Ouaro.
Bonjour.
Vous détestez qu'on dise les Brigitte, faut qu'on dise Brigitte.
Ah, vous avez plus très joli. Bien fait. Merci.
Vous vous êtes séparées à un moment, il y en a une qui est partie à Los Angeles, c'est qui?
Ouais, je suis allée vivre en Californie.
Ouais, pourquoi?
Pendant une année avec mes filles sous le bras, pour s'offrir des souvenirs plutôt que des mètres carrés, pour aller voir là-bas si on y est, pour être un étranger quelque part et puis pour écrire, composer.
Vous avez fait un break toutes les deux ou vous avez gardé contact?
On a fait un break. Pas du tout. On a fait carrément, on a écrit un album et on l'a enregistré.
Vous avez travaillé à distance, c'est ça?
À chacun distance, avec ses et puis ensemble. Ouais, ouais.
Vous avez été
c'est
là-bas.
Super, moi, j'y ai habité 3 mois quasiment.
Vous avez combien d'enfants chacune?
Deux.
Et deux.
Et vos enfants sont amis entre elles?
Ils n'ont pas le même âge, mais ils s'aiment bien. Ouais,
mmh. Ouais, ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas trop le choix. Ouais.
En tout cas, vous êtes en train de me donner une leçon de style. On peut être maman et être comme vous, quoi.
Ah oui, parce que on le voit pas à la radio, mais elles sont très très stylées.
Ah oui,
c'est vrai.
On dirait que vous sortez d'un magazine, alors que moi, on dirait que je sors d'une cave.
Mais vous êtes complètement canon. Vous dites n'importe quoi.
Non, enfin, arrêtez, c'est trop. Elles sont tellement stylées.
Alors là, vos projets. Donc il y a cet album. Vous avez ressorti des nouvelles. C'est quoi? C'est un nouvel album ou c'est des...
On a sorti une édition nouvelle pour Noël où on a inclus 5 titres inédits. Des chansons qu'on avait faites sur l'album précédent, des chansons qu'on a enregistrées exprès pour ce bonus. Donc voilà, il y a 5 chansons en plus.
Votre amitié, elle date d'il y a combien de temps, Brigitte?
On s'est rencontrés, je pense, en 2003, en 2004.
Tout de suite, c'était un coup de foudre amical ou...
Ouais, on était très attirés l'une par l'autre, ouais.
Ouais.
Autour de la musique ou à la base
c'était... Oui, autour de la musique, oui, parce que c'est un copain musicien qui nous a présenté, et puis je suis allée voir les concerts d'Aurélie, elle est venue voir les miens, on a collaboré.
Donc en fait, vous étiez chacune de votre côté, en fait,
oui.
Et ça marchait pas?
Ouais.
C'est ça. Et vous, vraiment pas. Ouais. Et vous, vous êtes mis ensemble, et tout de suite, ça a marché?
Tout de suite, ouais, presque, ouais. Ouais.
Wow.
Enfin, nous, tout de suite, on s'est dit que ça marchait. Que même si ça marchait pas pour le public, pour nous, ça marchait. Ouais. C'était marrant, ça.
Ouais. Et vous aviez plus de plaisir à deux que seul sur scène? Ou il y a toujours ce désir
On n'était pas vraiment seul sur scène avant. Sylvie avait un groupe et moi, j'étais accompagnée de musiciens. Donc, on n'était pas non plus seul, mais on était les seules filles dans nos projets respectifs. Je pense que c'était ça aussi. Et c'est peut-être une période de nos vies où on pensait que les garçons, ils savaient mieux que nous... Les hommes musiciens, ils savaient mieux que nous. Les techniciens, ils savaient mieux que nous. Et en fait, de travailler ensemble toutes les deux, on s'est dit, bon, bah, il n'y a pas de raison qu'on sache moins bien. On va y arriver. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est... Et puis surtout, personne ne voulait travailler avec nous. Donc,
on n'était pas vraiment le choix.
Vous vous éclatez toujours autant sur scène.
Ouais, c'est génial. C'est marrant. On m'a demandé il n'y a pas très longtemps, alors ça fait comment d'arrêter la tournée? Ça doit être dur. J'ai dit, bon non, c'est super. On se retrouve un peu chez soi, c'est agréable et puis c'est fatigant. Mais là, à la perspective d'être à nouveau sur scène, je suis très contente.
Vous avez inventé un style en fait, toutes les deux. Je veux dire, personne n'était comme vous avant. Et est-ce que ça a été copié ou...
Je ne sais pas.
J'ai une anecdote pour peut-être. Vous, c'est qu'il y a quelques années, j'étais invitée à une soirée et le dress code, c'était vous.
Ouais,
Brigitte. Je suis désolée, je ne vous connaissais pas. Du coup, j'avais googlisé. Et du coup, vous aviez un bandeau à l'époque. Ouais. Et du coup, j'étais allée à la soirée avec un bandeau comme beaucoup de gens. Et voilà. Je tenais à vous raconter ça.
C'est marrant, j'ai raconté l'histoire de ce bandeau il n'y a pas longtemps. On m'a dit, mais alors Et donc, je raconte qu'enceinte, très enceinte, j'avais pris beaucoup, beaucoup de poids. Et évidemment, on a des lubies quand on est enceinte parfois. Et j'avais décidé de me couper une frange. Et alors, avec mes cheveux bouclés, la frange, le poids, je n'étais plus qu'un rond du bas du visage, comme ça, je n'étais plus que mon goitre, avec ma frange qui faisait des vagues, comme ça, de cheveux bouclés, et je savais plus quoi faire, et je mettais des colliers de perles que j'avais chez moi pour aplatir la frange. Et ma copine, Anna Rivka, qui est une super bijoutière, me voyait passer tous les matins avec mon truc horrible sur la tête, et un jour, elle m'a dit, écoute Aurélie, faut que t'arrêtes, je vais te fabriquer un truc exprès pour ça. Et elle a commencé à faire ses headbands comme ça. C'est rigolo, non, comme histoire?
C'est chouette.
Ouais. Une contrainte.
Et elle touche des droits d'auteur maintenant sur ses headbands parce qu'elle est très riche, si c'est le cas.
Elle est très, très, très talentueuse.
Jérémy Lorca, écoutez votre album. Brigitte, il a des choses à vous dire.
Alors, Brigitte, enfin Sylvie, Aurélie, deux invités en même temps, j'ai jamais fait. C'est ma première chronique à trois. Et une première fois, c'est toujours un peu bizarre. Mais je me lance. Alors, j'ai écouté votre dernier album nu alors que j'étais habillée. Et pourtant, c'était très facile d'être connecté à vous parce qu'on peut se reconnaître dans pas mal de chansons. Par exemple, dans Palladium, vous décrivez ce moment où on sort en boîte pour oublier une histoire d'amour. Et c'est vrai qu'on l'a tous fait, mais le problème, c'est qu'en général, il faut aussi très vite oublier cette soirée-là. Parce qu'on est d'accord que quand t'es heureux en couple, tu respires le bonheur, tout le monde te drague. Le soir même, tu te fais larguer, tu sors en boîte pour te remonter le moral, c'est fini, tu pues l'échec. T'as beau faire 3 fois le tour de la boîte pour trouver une dernière démarque, c'est mort, tu ne rentres avec personne. Par contre, tu vas perdre ta dignité de manière pathétique parce qu'après avoir demandé 8 fois au DJ de passer, tu m'oublieras de la Rousseau, tu iras draguer le premier venu, mais le problème c'est que tu sais plus draguer, t'as plus les codes. Du coup, tu sors des trucs du genre t'es quel signe astrologique ? Capricorne ? Waouh, c'est fou ! Ma voyante m'a dit que j'allais rester 5 ans avec un Capricorne et qu'on allait faire un enfant. Bah pourquoi tu pars ? Reviens ! On a été fait l'un pour l'autre, je te dis. Alors justement, dans votre titre, La morsure, vous dites mon cœur est en faillite, je ne suis pas doué pour l'amour, avec moi on prend la fuite et c'est fou, c'est l'histoire de ma vie. Alors je vous rassure, ça m'arrive aussi de partir, mais ça marche moins bien. Tenez, ma dernière dispute de couple, je quitte l'appartement très énervé, je fais semblant de descendre les escaliers. Bon, j'attends sur la première marche comme un con, hein, classique. Et là, je reçois un texto, t'es où ? Et là, selon mes potes machos, j'ai réagi de manière un peu féminine, puisque je me suis dit, faut que je réponde fâché, mais pas définitif, avec un peu de distance. J'ai envoyé loin de toi 3 petits points, et j'ai reçu en réponse, je te rappelle qu'il y a un Judas, je te regarde depuis tout à l'heure. C'est humiliant. Alors, dans cet album, vous parlez également de Paris, et ça tombe bien, parce que je crois que je suis devenu un vrai parisien. Oui, c'est officiel, je suis devenu odieux. Je fais des brunchs le mardi, parce que le dimanche, c'est pour les civils, j'appelle civils tous les gens qui ne sont pas artistes, qui travaillent en semaine et qui en plus ont des enfants, je les déteste. D'ailleurs, je suis pour qu'on interdise les brunchs à toutes les familles qui ont des poussettes. Je fais du yoga Bikram, c'est du yoga dans un sauna chauffé à 50 degrés, ce qui veut dire que toutes les semaines, je frôle l'arrêt cardiaque. Mais je continue d'y aller juste pour croiser Benjamin Biolay dans les vestiaires. Je parraine un enfant somalien par le biais de Médecins du Monde et pas de Médecins sans frontières parce que je veux bien être généreux, mais faut pas déconner. Le premier est défiscalisable à 75% et le deuxième à seulement 66%. Et bien sûr, je mange des graines dans des restaurants qu'on me facture 14,90€ les 100 grammes, mais je suis content parce que ça fait des jolies photos pour Instagram, ça rapporte des likes. Parce que oui, c'est toujours sympa d'avoir du succès. D'ailleurs, j'ai étudié votre parcours et je vous trouve très inspirante. Aurélie, vous étiez comédienne, on en a parlé tout à l'heure. Et puis vous êtes mise à la chanson et vous avez cartonné avec Brigitte. Je me suis dit que j'allais faire pareil. Demander à un pote de chanter avec moi. Donc je vous l'annonce avec Benache. On a décidé de créer les Maurice. Alors pour les paroles, j'ai pas votre poésie et clairement je fais ça pour l'argent. Donc j'ai imaginé un tube mondial pour les boîtes de nuit. Mais chanter en français sur de la musique house, l'avantage c'est que personne ne va comprendre les paroles. Personne ne va comprendre ce qu'on dit, mais quand même, je me suis un peu inspiré. Vous dites, quand on chante, on aime mélanger une musique légère avec un texte profond. Alors attention, c'est parti. On n'a pas la bande son, donc le public, vous imaginez qu'on est en boîte de nuit et vous faites doum, doum, doum. Allez-y. Attention.
Ton cœur m'habite, un diabolo aux fraises.
Ton cœur m'habite, un diabolo aux fraises.
Et ben voilà, quel succès.
Pas sûr, pas sûr.
Waouh!
Je crois que c'est bon, on a engagé pour votre première partie.
Bah ouais!
Mais allez, est-ce qu'on dirait pas Maurice plutôt que les Maurice?
Ouais, on dit Maurice. Maurice, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, c'est une tournée acoustique. D'ailleurs, sur 23 dates, il y en a 10 qui sont déjà complètes. Il en reste 13. Et 13, c'est un chiffre qui porte bonheur. Je vous souhaite donc beaucoup de bonheur avec cette tournée.
Merci!
Alors, cette chanson.
C'est un tube.
Si vous cherchez des co-auteurs, ouais.
Non, ouais, bah, on y va, hein, les gars. Ouais.
Vous, Sylvie Roy, vous avez l'air heureuse.
Oui, ça
veut dire quoi?
Que moi, non, pas du tout, vraiment.
Mais si vous avez un sourire mystérieux, vous me faites penser au chat dans Alice au Pays des Merveilles. On vous l'a déjà dit ou pas?
Ah, j'ai jamais vu Alice au Pays des Merveilles. Non, on m'avait jamais dit ça.
Énigmatique.
C'est vrai, vous avez un visage un peu erratique. On ne sait pas ce que vous pensez vraiment.
Ouais.
C'est pas une critique.
C'est parce
hein.
que je pense pas vraiment.
Peut-être. Non, mais vous avez un côté mystérieux, c'est vrai. Hein
les lunettes, peut-être.
Ouais.
À cause des lunettes.
Je peux les essayer, je vais voir ce que ça donne sur
c'est
moi.
C'est la sérénité.
D'un coup, je vais devenir très à la mode.
Ouais, c'est ça. Ou Mac Lesguy, on va voir.
Nana Mouskouri.
Non, non, non. Sur toi, ça fait vieille.
Christine, bravo. Jean-Pierre Coff, incroyable.
Il faut pas les.
Ça fait vieillotte sur toi.
Ça ne va pas.
On dirait que c'est pas les mêmes lunettes sur
ça
vous.
Ça fait pas pareil.
C'est non, c'est
non, c'est incroyable.
C'est-à-dire, je n'ai pas.
C'est
style,
l'injustice
en fait.
De la vie.
Pas avec ses lunettes.
Ah ouais.
Mais vous avez pas la même forme de visage.
Ça doit être ça.
C'est fou.
Merci Brigitte.
Merci.
Il est écrivain, scénariste, réalisateur et sait retranscrire avec talent les petites choses de la vie. Ses histoires se lisent, ses histoires se visionnent, mais surtout ses histoires se ressentent. Il est lauréat du prix François Mauriac, du prix Renaudot, du prix Goncourt des lycéens. Il vient nous parler de son nouveau roman Deux Sœurs, paru chez Gallimard le 21 février. Le délicat David Fuenquinos est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour David Fuenquinos.
Bonjour Anne.
Bienvenue sur Europe 1. Alors votre dernier roman s'appelle Deux Sœurs, c'est l'histoire d'une femme qui après une rupture amoureuse vient se réfugier chez sa sœur.
Oui, exactement. La première partie, c'est vraiment l'exploration de cette dévastation amoureuse.
Comment vous connaissez si bien le cœur des femmes? Le cœur des femmes,
l'arrivée. Là, en l'occurrence, oui, effectivement, je m'attache au portrait de cette femme-là, mais la rupture, on en a tous vécu. Alors, c'est vrai que j'espère pour nous tous. Voilà, pas à ce point-là, parce que c'est vrai que ça va très très loin. Quand la raison de vivre n'existe plus, finalement, puisque du jour au lendemain, elle est quittée par son compagnon. Et puis, ça s'appelle deux sœurs, vous avez raison, parce qu'elle va aller vivre chez sa sœur. Il y a quelque chose d'assez terrible, finalement, parce qu'elle est devant le film de la vie qu'elle aurait dû avoir. Puisqu'elle, qui n'a plus rien, elle est chez sa sœur, qui vient d'avoir un bébé, qui est très heureuse en amour. Et donc,
ce bonheur lui est insupportable.
Oui, voilà, il y a quelque chose de difficile, d'aller mal, mais quand le bonheur des autres...
Elle se fait virer de son boulot, en plus, parce qu'elle gifle un élève.
Ouais, exactement. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la vie qui s'acharne un petit peu contre elle dans la première partie. Et
vous connaissez bien le désespoir, David Fuenkinos. Non, mais vraiment,
oui, mais alors, par contre, alors, on ne va pas raconter la fin du livre, surtout pas. Hein, je ne connais pas, par contre, jusqu'où va Mathilde, parce que c'est vrai qu'on va voir dans le livre que ça dérive à...
Vous connaissez si bien le cœur des femmes, c'est une vraie question. Sérieusement, comment vous ressentez si bien?
On m'a souvent posé cette question.
Parce qu'il y a le film Jalouse, il y a Charlotte.
La délicatesse aussi,
oui,
beaucoup.
Aussi, bien
la
sûr,
délicatesse, ouais. J'avais reçu beaucoup, beaucoup de lettres de femmes à ce moment-là. Je pense que quand
vous
on
avez
est...
été femme dans une vie antérieure.
Mais je crois.
Davida Fuenkinos.
Mais voilà, c'est ça, c'est moi. Mais je pense que tous les écrivains hommes ont une part féminine, forcément.
Plus ou moins quand même.
Je pense. Et les écrivains femmes ont une part masculine.
Ouais, c'est l'anima et l'animus, ça s'appelle.
Ah ben voilà, j'aurais dû dire ça.
Je parle
plus intelligent. Merci.
Hein.
Oui, mais oui, t'as déjà des femmes qui. Non, mais moi je trouve que c'est tellement bien décrit dans les petits. On dit, enfin, je sais pas comment vous allez le prendre, mais on dirait que c'est une femme qui a écrit ce livre, David Fuenkinos.
Mais ça me fait plaisir, je le prends très très bien. Mais j'aime aussi m'attacher au personnage masculin. Mais là, en l'occurrence, sa rupture, ce qu'elle vit, son désarroi, son effroi et la façon avec laquelle elle va essayer de combattre finalement tout ça, puisqu'elle va devenir progressivement, non seulement jalouse de sa sœur, mais aussi malveillante. On va s'en rendre compte progressivement.
En plus, c'est dur parce que son ex la quitte pour une fille qui est partie en Australie et pendant 5 ans qui s'est mariée. Donc,
c'est une double peine. En fait, il la quitte pour son ex qui revient en France.
C'est le pire.
Et donc,
ça.
Il y a quelque
ça,
chose d'extrêmement violent. Elle a le sentiment que c'est une double peine dans cette rupture. Elle a le sentiment d'avoir bouché le trou du cœur de son homme. Et qu'elle a été dans une sorte de salle d'attente, quoi.
Vous l'avez vécu ça quand on vous a quitté pour une ex, un ex, je veux dire.
Je l'ai pas vécu, c'est pas autobiographique, je vais très bien. Vous savez, parfois en étant très heureux. Ouais. En connaissant l'amour et le bonheur, finalement, on est dans l'anticipation de pouvoir perdre ce bonheur-là.
Ah ouais, bien sûr.
Et donc, le bonheur peut nous propulser vers le sentiment de ressentir l'effroi de la perte de ce bonheur. Je ne sais pas si je suis claire,
mais
parfois c'est en vivant l'opposé des choses.
Donc là, vous êtes très heureux, David Fuenkinos.
Je suis très heureux.
Et en tout cas, donc c'est quand même un livre sur le rapport à l'abandon, ce livre, Les Deux Sœurs. Et vous n'avez jamais été abandonné par vos lecteurs. Au début, vous avez eu du mal à trouver le succès quand même.
Oui, j'avais pas spécialement une quête de succès, parce que quand on écrit, voilà, la plupart des écrivains, ça reste assez confidentiel. Et moi, j'écrivais parce que c'était une respiration, c'était toute ma vie d'écrire. Et c'est vrai que pendant une dizaine d'années, j'avais assez peu de lecteurs, mais j'en avais pas d'amertume. Le vrai changement, ça a été avec la publication de La Délicatesse, qui a été vraiment extrêmement étrange à vivre, puisque le livre a été numéro un des ventes pendant un an et demi.
À un moment, vous en vendez 5 000 par jour.
Oui, oui, mais j'avais l'impression, en fait, que c'était une sorte de caméra cachée un peu étrange, quoi. Que tout le monde, parce que je allais sur la plage, c'était l'été, je voyais tout le monde lire le livre, dans le métro, pareil.
Vous disiez, c'est moi.
Oui, alors, je l'ai fait qu'une fois, la première fois où j'ai vu une femme lire le livre dans le métro, et bon, elle en avait vraiment rien à foutre.
Ah ouais.
Donc, je me suis pris un vent, peut-être qu'elle m'a pris pour un mytho.
Ah ouais,
c'est une autre fois, j'étais dans le train à côté d'une femme qui lisait La Délicatesse. Donc j'étais hyper heureux, quoi. Ça fait toujours plaisir, sauf qu'un quart d'heure après, elle dormait la bouche ouverte.
Ah non. C'est dit,
On a le train quand on a un nouveau livre qui sort, David Fuenkinos, comment il va être reçu?
Il est sorti depuis presque une semaine déjà, et c'est vrai que ça se passe vraiment très très bien.
Dans
donc
les
on
ventes,
a le track,
vous êtes bien classé.
Mais là, c'est vrai que le démarrage est très très fort, et ce qui me touche, c'est que là, en l'occurrence, on peut dire que c'est une sorte de thriller psychologique, mais c'est encore un livre différent de
ce que
j'ai
vous avez
pu
fait
faire
ici, bien sûr.
Précédemment, et ce qui est très touchant pour un auteur, c'est que les lecteurs vous suivent, même si voilà, entre La Délicatesse, Charlotte, Le Mystère Henri Pic, ce sont des livres différents. il y a une fidélité.
Ils vous écrivent, vous lisez les mails, ils vous envoient des messages sur les réseaux sociaux. Comment
oui, je reçois des messages, c'est souvent comme ça sur Facebook et puis par courrier aussi.
Et vous répondez ?
Donc pas à tout, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup.
Parce qu'après aussi, il peut y avoir une fille un peu bizarre qui tombe amoureuse de vous, puis après vous lui répondez, puis
oui,
elle vous lâche.
Si elle tombe amoureuse de moi, elle est pas bizarre, quoi. Mais les filles bizarres, oui, j'en ai vu, effectivement.
Non, mais ça peut être un peu flippant, non ?
Oui, mais alors,
elles peuvent s'imaginer des trucs.
Ouais, mais j'avoue que c'est plus le contraire. J'ai cette chance-là, c'est-à-dire que les gens sont vraiment, enfin les lecteurs sont bienveillants, adorables. Là, je vais faire quelques dédicaces, je crois, au Salon du Livre de Paris, par exemple. Voilà, ça fait 15 ans que je publie, donc je revois certains lecteurs.
Il n'y a pas d'attachement, mais
et c'est un plaisir comme ça de croiser. Voilà, c'est.
Il n'y a pas Cathy Bates dans Misery qui veut vous kidnapper pour.
Non, pas encore.
Moi, j'étais sûr que vous.
Ça fait peur, ça.
J'étais sûr que vous étiez très courtisé, justement. Que
à quel niveau
que les lectrices justement tombaient vachement amoureuses, comme disait Anne, essayaient de vous draguer par tous les moyens.
Non, je suis pas acteur de cinéma ou chanteur, c'est-à-dire que elles se jettent pas sur moi. J'ai pas des strings et des offrandes.
Moi
c'est
non
pas
plus. Anne Romanoff
qui sort. Anne Romanoff, quand elle sort de spectacle, c'est la folie. Quoi.
Nous, et vous, bien sûr, il y a que des femmes de 50 ans qui m'attendent pour des autographes.
Vous avez plus de lectrices ou de lecteurs, David
Fruchidos? Oui, j'ai plus de lectrices, mais c'est pas moi, c'est-à-dire que je pense que le roman d'une manière générale est plus féminin, c'est-à-dire que ça soit Delphine de Vigan ou tous les autres écrivains, même femmes, ont plus de lectrices.
Et vous ne vous arrêtez jamais, parce que là vous sortez quasiment un livre par an.
C'est le 16e.
Oui, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé et puis j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai fait un film l'année dernière.
Bien sûr.
J'ai écrit le dernier film de Jean-Paul Rouve.
Oui, et là, il y a le film de Rémi Besançon qui sort, Le Mystère en
Répit. Je suis très heureux. J'ai pas participé, moi, à l'écriture du film, mais je suis très heureux.
Avec Fabrice Lucchini.
Ouais, avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin. Le duo est vraiment excitant. Ouais.
Vous avez vu le film ?
Oui, je l'ai vu 3 fois et vraiment pour.
Vous n'aviez pas bien compris la première fois ?
Voilà, exactement. Non, mais j'ai vu exactement. J'ai toujours pas compris d'ailleurs. Allez le voir plusieurs fois. Lisez le livre après pour comprendre.
Bien joué.
C'est simplement que j'avais vu une première version du montage, puis voilà, puis j'étais très, très heureux. Rémi Besançon, c'est vraiment un très très bon réalisateur. Réel, ouais. Il avait fait Le Premier Jour du Reste de ma vie, et c'est vrai que le duo Lucchini-Cotin, qui part comme ça sur une sorte d'enquête littéraire, un peu ludique, c'est vraiment savoureux.
Et ça fait quoi de voir ces personnages en vrai, incarnés par des vrais acteurs?
C'est assez étonnant.
Surtout que c'est pas vous qui avez choisi, en plus.
Non, là, c'est pas moi, mais c'est vrai que le journaliste littéraire un peu dépressif, dans mon roman, je rêvais d'un Fabrice Lucchini, ça c'est certain.
Ah ouais.
Donc c'est tout le talent de Rémi Besançon et Vanessa Portal, quand ils ont écrit le scénario, de convaincre après...
Ils vous l'ont montré, le scénario, quand même?
Oui, j'ai lu le scénario, tout à fait, avant le tournage.
Vous avez mot à dire ou pas sur
on a son mot à dire avant, c'est-à-dire que quand le livre est sorti, j'ai eu beaucoup de proposition. Ouais. J'ai choisi Rémi parce que j'aimais son cinéma et on a parlé du film qu'il avait en tête. Et après, voilà, après le film, on peut pas le maîtriser, évidemment.
Mais
en l'occurrence, j'en suis très heureux là.
Parce que ça vous dit pas d'adapter vous-même vos bien bouquins, sûr. En fait, c'est ça qui est étrange.
Je peux pas tout faire. Ouais. Mais on l'a fait une fois avec La Délicatesse. Mon frère et moi, on avait vraiment envie maintenant de faire des films qui soient pas liés à mes romans.
Donc vous préférez en fait.
Jaloux, c'était un scénario qu'on avait écrit ensemble.
Ouais.
Et je trouve ça mieux aussi parce que. Voilà, tout mélanger. Et aussi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas notre travail, mais d'être jugé d'une manière plus crédible que si le film demeure dans l'esprit des gens une sorte de produit dérivé du livre.
Ouais, bien sûr.
Et là, vous préparez donc un film qui n'est pas issu d'un livre ?
Ouais, on est en train d'écrire notre prochain film. Voilà. Et donc, très différent de mon dernier roman, plutôt dans la veine comique, je pense.
Ah, une comédie ?
Et sexuelle.
Oh, ça nous intéresse. Léa Landau a des questions à vous poser.
David Fonquino, c'est un plaisir de vous recevoir pour la seconde fois. Cette année, comme vous venez pour votre livre Deux Sœurs, j'ai décidé d'aller dans l'originalité et de vous préparer une interview de frères. Car je rappelle que vous êtes le frère de Stéphane Fonquino. J'ai donc eu votre frère Stéphane au téléphone hier et je lui ai proposé de vous poser des questions de frère à frère. C'est donc Stéphane qui parle. Alors il dit, David, déjà, est-ce que depuis l'année dernière où j'avais confié à Léa que c'est moi qui te faisais ton nœud de cravate pour les Césars, tu as appris à les faire tout seul?
Non, non, j'ai besoin de lui. C'est pour ça que je travaille avec lui uniquement pour les cérémonies. Quoi.
Il dit, alors David, comme j'ai lu ton livre Deux Sœurs, si l'on transpose aux deux frères que nous sommes, j'espère que tu as écrit une fiction et pas une autofiction. Sinon, je suis dans la mouise. Est-ce qu'il faut que je commence à m'inquiéter,
oui,
David?
Oui, alors ne surtout pas raconter la fin non, du livre. Non, c'est ce mais qu'il m'a dit. Quoi, il a de quoi s'inquiéter, ouais. Effectivement. Ouais, là, mais c'est, en fait, on me demande si j'aurais pu écrire la version masculine de cette
bien
histoire.
Sûr.
Mais comme j'ai un frère, les gens auraient peut-être pensé que c'était un peu autobiographique. Voilà.
Vous êtes que deux dans votre famille?
Oui, deux, à ma connaissance.
Alors David Fonkinos, votre frère Stéphane, a ensuite noté pas mal de différences entre vous, comme vos cheveux par exemple, mais aussi d'autres choses, et pour certaines, il vous pose des questions qui sont un peu des défis. Donc c'est toujours Stéphane qui parle. Il dit « David, tu t'es moqué de moi quand je suis parti faire un jeûne. Et quand je suis rentré, tu as reconnu que ça m'avait ouvert l'esprit. D'où même la question à mon frère. Accepterais-tu de venir avec moi faire un jeûne la prochaine fois que j'en fais un ?»
Alors totalement, parce que mon frère est parti dans une clinique improbable en Allemagne, je crois. Et c'est vrai qu'il est rentré, mais totalement transfiguré. Et même avec de très bonnes idées pour notre prochain film.
Ah ouais,
ouais.
C'est surtout ça qui vous a intéressé. Qu'il ait perdu 4 kilos, rien à foutre. Qu'il ait baissé son taux de cholestérol, rien à foutre.
Non, mais je crois que c'est, pourquoi je dis ça, c'est-à-dire que je pense que quand on est bien dans son corps, il y a quelque chose aussi qui se développe au niveau de l'intuition. Ah, de...
Dans le corps des autres, c'est pas mal non plus.
Oh. Alors, votre frère Stéphane vous dit aussi, David, tu te moques aussi de moi quant à ma pratique des arts martiaux et de mon yoga. Là encore, si je le te demande, est-ce que tu viendrais avec moi à un de ses cours?
Non, jamais.
C'est vrai?
Non, on est très différents, mais Stéphane je sais. Et moi. C'est d'ailleurs assez magique de voir à quel point on s'entend bien. On aime travailler ensemble parce qu'on a des tempéraments et même des goûts d'une manière générale assez différents.
Alors, il m'a aussi confié que petit, vous avez passé beaucoup de temps à l'hôpital et que vous aviez une aversion pour les médecins et même par rapport à toutes sortes de médecines parallèles, alors que lui, il est très branché, huiles essentielles, etc. Voilà la question de votre frère Stéphane. Il dit, David, pourrais-tu, s'il te plaît, utiliser ne serait-ce que pendant une semaine des huiles essentielles pour essayer et me donner ton avis?
Et le jour où, si je vois que ça marche sur lui, alors qu'il en met tous les jours depuis 20 ans, j'essaye tout de suite. Il a toujours une sinusite, un mal de crâne. Ouais. Il faudrait lui expliquer que ça marche pas, quoi.
Ce serait peut-être pire s'il mettait pas d'huile essentielle.
Je crois pas, moi.
Et les odeurs des huiles essentielles, on en parle. Ça, c'est
quoi? Ouais. Ça pue?
Ah oui.
Alors enfin, malgré toutes nos différences, donc c'est toujours Stéphane qui parle, sache que moi, David, je ne ferai de film avec personne d'autre que toi et toi.
Eh bien, écoute, c'est totalement réciproque. Non, c'est vrai qu'on est je pense qu'on a besoin l'un de l'autre et puis on est surtout heureux de travailler ensemble.
Bah ouais, ouais.
J'ai la séquence émotion de l'émission. Quoi. Anne Romanoff est au bord des larmes. Quoi. C'est vraiment,
on va sortir les violons en mouchoir.
Non, et enfin, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais il m'a confié que vous étiez en écriture de votre prochain film. Et mais il m'a dit, il est seul, lui pourra vous en parler s'il en a l'envie. Donc,
et bien en fait,
comédie.
On n'en a jamais parlé, mais j'ai fait une allusion tout
ouais,
à l'heure.
Comédie et sexualité.
Ouais, donc vraiment, c'était un scoop. Hein. Il faut l'écrire maintenant.
Ça met combien de temps pour écrire, David?
Ça dépend.
Un roman, mais
entre La délicatesse et Jalouse, on a mis 6 ans. Donc je dirais qu'un scénario, voilà, c'est assez long. Et puis les romans, ça dépend. Deux Sœurs, je l'ai écrit presque comme une impulsion. Alors que Charlotte, j'ai mis 8 ans à l'écrire.
Ah ouais. Donc,
t'as pas de généralité. Ouais. Ouais.
Moi, je suis sûre que vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave.
C'était déjà un peu le cas.
Ouais.
Je suis sûre que vous avez été Charlotte Salomon dans une vie antérieure. Pourquoi? Comment vous expliquez que le destin de cette femme vous bouleverse à ce point?
Alors, je sais pas si j'étais Charlotte Salomon, mais j'ai été très attirée d'une manière un peu mystique par l'Allemagne des années 30. Je raconte tout ça dans mon livre. C'est vrai que moi, j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai frôlé la mort et c'est vrai que ça m'a rendu aussi sensible aux signes, à l'étrangeté des hasards et des choses de la vie. Mais il y a des choses assez étranges.
Ça vous fait tellement écho. Et puis le fait aussi que quand vous avez réussi à ce qu'elle ait une exposition de ses œuvres, vous avez senti une forme d'accomplissement, d'apaisement profond. Donc,
Oui, c'est vraiment le livre le plus important à mes yeux. Et tout ce qui s'est passé autour, ça a été vraiment très, très fort.
Et vous pensez que c'est parce qu'on frôle la mort à un moment dans sa vie qu'on devient très empathique et très sensible,
ça,
comme vous
l'êtes?
Parce
que Léa aimerait frôler la mort pour devenir talentueuse.
Elle est en train de le faire.
Figure-toi que moi,
j'ai failli... m'inquiète beaucoup.
Ouais, je suis désolée. Non, mais figure-toi que j'ai failli mourir 2 fois, moi, dans ma vie, déjà.
Ah oui?
Ouais, bien sûr. J'ai eu un accident de toboggan aquatique où je suis tombée dans le coma quand j'avais 17 ans. Et à 23 ans, j'ai eu un accident de scooter très grave.
Et après, tu t'es réveillée.
Voilà, et maintenant tu travailles avec Anne Romanoff.
Ouais, c'est ça.
C'est les 3 traumatismes de ta vie. Quoi.
Elle est sous l'eau.
L'une est née sous le soleil brésilien de Sao Paulo, l'autre sous le soleil plus discret de Maubeuge. Et ensemble, elles vont réchauffer nos soirées hivernales, puisqu'on va les retrouver dans la saison 2 de la série Les Bracelets Rouges sur TF1. Accueillons chaudement Christiane Areali et Camille Lou.
Chaudement.
Bonjour.
Bonjour Christiane Arali,
bonjour,
Camille.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Vous êtes des héroïnes de la série Les Bracelets Rouges sur TF1. C'est une série qui a un succès fou.
Oui, c'est une série donc c'est la deuxième saison.
Ouais.
Et je pense que cette saison, elle va être encore plus... plus marquante.
Alors pourtant au début on se dit oh là là parce que c'est des enfants malades, mais
ça fait un peu peur.
Ouais, mais c'est adapté d'une série espagnole qui déjà marchait très très bien.
Oui. Alors c'est vrai qu'au début on se dit tiens voir des enfants, des adolescents dans les hôpitaux, c'est pas vraiment. Mais on a déjà passé ce cap au fait avec la première saison, donc ça a été accepté et ça a été, les gens sont très fidèles à ces jeunes héros qui sont extra. Et du coup je pense que la deuxième saison on a passé un peu ce cap de se dire est-ce qu'on a envie de voir des enfants se faire soigner malades. Mais il y a d'autres histoires, c'est surtout
c'est
une histoire d'humanité
aussi.
Voilà, c'est ça.
Et c'est une histoire d'énergie aussi, ça envoie des enfants se battre.
Oui, et puis c'est une histoire humaine entre eux aussi.
Ouais.
Parce que
face à la maladie, tout d'un coup, les rapports deviennent plus sincères aussi. On est plus dans les choses viscérales.
Et puis c'est surtout de voir comment la vie prend le dessus, c'est-à-dire qu'ils ont une vie dans cet hôpital. Ils ont une vie comme tous les jeunes ados.
Vous, Christiane Arali, vous faites une maman.
Et oui, je fais la maman de Clément. Il ne veut pas tout le temps la voir là, quoi, parce qu'elle, elle veut tout le temps, elle croit qu'elle a besoin d'être là tout le temps. Et en fait, lui, il a rembarre, parce qu'il a sa petite histoire avec les jeunes, enfin, les petites histoires d'amour et tout. Et elle le gonfle un peu.
Vous, Camilou, vous faites la compagne et c'est votre beau-fils dont vous vous occupez, c'est ça ?
Tout à fait, je suis une belle-mère, ce qui est très étrange pour moi, hein, vu que j'ai 26 ans. Mais il y en a des belles-mères à 26 ans, d'ailleurs.
Il y en a beaucoup.
Oui, beaucoup plus qu'on ne croit.
Donc, parce que là, vous, en vrai, vous êtes avec un homme de votre âge.
Tout à fait. Tout à fait, oui, qui n'a pas d'enfant. Oui, non. Donc, oui, non, c'est la première fois pour moi, un
belle-mère.
Beau-fils. Belle-mère, oui, c'était une première.
Et ça s'est bien passé ?
Ça s'est très bien passé. J'aime beaucoup, parce que Pascal Elbé m'a mis vachement à l'aise. C'était une des premières expériences pour moi de tournage. La saison 1 des Bracelets Rouges, donc j'étais un peu stressée. Je voulais bien faire les choses, quoi. Surtout que c'est une histoire qui est vraie. Enfin, c'est quand même Albert Espinoza qui avait vécu tout ça. Donc faut être
sincère.
Faut être sincère, quoi. Faut être.
J'aimerais tellement
être à la hauteur.
Ma belle-mère. Est-ce qu'on peut faire un échange avec ma belle-mère ? Parce que vraiment, vous n'avez pas du tout la même énergie. C'est marrant, hein ?
Il y a une très belle distribution. Hein. Il y a Audran Catin, Tom Rivoire, Luna Espinosa.
C'est
des jeunes, mais il y a aussi Pascal Elbé, Cécile Reboy, Natacha Régnier, Christiane Arali, Oratica, Lionel Abelansky, Guy Lécuisse, Stéphane Debac, Mathieu Madénion, Jarry, Jean-François Quéret, tout ça. Élodie Franck, Michael Youn, tout ça.
C'est vrai que Jarry, il est extrêmement drôle dans cette saison. Il a amené quelque chose
il joue
de nouveau,
quoi, Jarry?
Alors il joue un comment dire, il anime un atelier de théâtre.
Un atelier de théâtre.
Et voilà, mais je trouve ça ce que j'aime aussi dans cette série déjà, c'est bon, elle traite d'un sujet qui est très fort, très touchant, et en plus de ça, elle amène des gens qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir à l'écran, comme Jarry. Et pourtant, c'est un acteur qui est juste incroyable et super drôle. Enfin, il a amené quelque chose de super frais. C'est génial, quoi. Voilà, moi, j'aime beaucoup cette série.
Et elle vient.
J'en suis très fière.
Et le succès, il vient aussi beaucoup de ces jeunes acteurs qui sont quand même super et qui tournent tous les jours, donc pendant des mois. Et nous, on arrive un peu chez eux. Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que quand on vient, nous, faire notre participation qui est beaucoup plus petite, donc tous ces gens que vous avez cités, Pascal Elbé, Natacha Régnier, tout ça, et on vient un peu... On les envahit un peu, puisqu'on débarque par pointillés comme ça. Et c'est un peu l'histoire aussi. On les envahit un peu dans l'histoire aussi.
Camilou, vous avez commencé par la chanson, et c'est toujours important pour vous ?
Oui, ça l'est différemment parce que je me suis découverte aujourd'hui. C'est vrai, grâce à la comédie, j'apprends beaucoup sur moi, plus que je n'ai appris avec la musique jusqu'à maintenant. Donc je pense que
vous avez aussi dans Danse avec les Stars, vous êtes arrivée deuxième.
Oui, c'est vrai.
Qui était premier ?
C'était Laurent Mestré qui a fait Koh-Lanta, qui a gagné Koh-Lanta.
Vous méritez de gagner.
Ah oui.
Bah, Laurent était quand même très très fort, on ne va pas se mentir. Mais c'est rarement des filles qui gagnent.
Et ouais, c'est ça.
Et donc ça vous a apporté quoi, Danse avec les Stars, par des courbatures ?
Eh ben, ça m'a apporté les Bracelets Rouges.
Justement grâce à ça ?
Oui, complètement.
Et là, vous aimeriez vous orienter vers quoi maintenant, Camille ? Parce que vous êtes jeune, la vie vous appartient, vous êtes... je veux dire.
Eh ben, j'ai
la comédie, le cinéma, le théâtre.
La comédie m'a vraiment fait de l'œil, là, j'avoue, j'ai toujours aimé ça, mais je ne m'étais jamais permis. Pour moi, c'était une, enfin, voilà, inatteignable. C'était impossible de faire de la comédie. Donc, d'y avoir goûté, maintenant, je crois que je ne peux plus m'en passer. Et là, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait Jusqu'ici, tout va bien avec Gilles Lelouch, Malik Bentala, qui est actuellement au cinéma. J'ai fait un autre film qui s'appelle Play avec Max Boulbil. J'ai fait donc une autre série qui se tourne actuellement, qui sera aussi sur TF1, qui s'appelle Le Bazar de la Charité. Et j'ai plus envie de m'arrêter.
Donc vous voulez continuer?
Ouais, tout en faisant de la musique, mais pour l'instant à la maison.
Vous avez quel âge? Ça n'a rien à voir.
Ah, il passe. Ah, ouais. Alors, je le regarde, il a l'œil qui brille, il attend de s'engouffrer.
Elle a expliqué qu'elle est en couple avec un homme de non. son âge.
Vous avez expliqué ça, et ouais. Je ne suis pas du tout en train de draguer.
Si,
je m'intéresse aux invités.
Bah ouais, bah
alors
ouais.
Camille, vous avez quel âge? Voilà.
J'ai 26 ans.
Allez, il a 40 journée. Ans. Il est trop vieux.
Il a 40 ans. Il est
alors,
trop
alors que Christiana, oui,
non,
tu peux.
Non, il ne faut pas qu'il me demande mon âge.
Je ne me permettrai pas votre âge parce que vous n'avez pas d'âge. Voilà,
ça, c'est pas élégant.
Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique.
Eh ben, non,
on me reprend
vous avez
de voler
pas d'âge,
sur des choses.
C'est ce qu'on disait à Jeanne Calment, t'as pas honte.